en DVD et Blu-ray. Versailles 1789, la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la cour. Le château se vide des servants et des nobles.
Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. J'obéis à la reine.
Les adieux à la reine, un DVD et Blu-ray France Inter.
Radio France, partenaire des 6e Assises internationales du journalisme et de l'information, les 2, 3 et 4 octobre. Chaque année, les Assises invitent le grand public, les éditeurs, les journalistes à débattre de la qualité de l'information. Grands reportages, journaux, télé toute info, réseaux sociaux, pas de démocratie véritable sans information de qualité. Vous aussi, venez donner votre avis au Théâtre Auditorium de Poitiers. Renseignements, radiofrance.fr. France Inter,
la voix est libre.
Et c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet, son répondeur et tous ses amis.
Bonjour Daniel. Hier, dans l'excellent reportage de notre enquêteur François, la conversion en année de SMIC de la fortune de la famille Mullier n'est pas de 117 300 années, mais de 1 173 000 années de SMIC. On pourrait garder comme repère que 17 milliards d'euros équivaut à 1 million d'années de SMIC. 1 million d'années de SMIC nous fait aussi bouger le curseur de l'histoire, puisqu'il y avait une référence de l'histoire de l'homme. Et cela nous ramène à la période du paléolithique inférieur, plus ou moins l'homme australopithèque. Toujours est-il que, si ça fait sourire, cela doit aussi nous indigner, nous révolter, tout comme les témoignages des salariés d'Auchan, qui doivent nous inviter à poursuivre le débat sur la brûlante question du partage de la richesse produite. Merci encore pour cette rediffusion.
C'est Aurélie Trouvé d'Attaque. C'est un message pour les auditeurs de là-bas si j'y suis, pour appeler à manifester contre le pacte budgétaire et pour une Europe solidaire, ce dimanche 30 septembre à Paris, 13h30, place de la Nation. Pourquoi ? Eh bien, François Hollande s'était engagé à renégocier le traité européen. Il veut maintenant le faire voter extrêmement vite aux parlementaires, sans en changer aucune ligne. Ce traité qui interdit les déficits publics va imposer une austérité d'enfer sans rien régler des causes réelles de la crise et de la dépendance aux marchés financiers. Nous attendons donc des dizaines de milliers de manifestants à Paris pour s'y opposer ce dimanche à l'appel de très nombreuses associations, syndicats et forces politiques. Il y a une centaine de bus et de trains et même des trains qui sont prévus de province. Si vous voulez vous informer, c'est facile. www.stopaustérité.org. À très bientôt.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour aux courageux auditeurs modestes et géniaux. Moi, ça faisait bientôt 2 ans que je n'écoutais plus France Inter avec un grand regret, car certaines émissions sont quand même super. Enfin, j'ai entendu le 14 septembre l'émission en direct de la fête de l'UMA, puis celle du 20 sur les managers de transition. Tout ça, c'est assez édifiant. Il faut savoir que notre ministre Montebourg a repassé les doigts dans la cage la semaine dernière en déclarant inacceptable le plan de restructuration envisagé par la Big Pharma française Sanofi, qui veut supprimer ses équipes de recherche à Toulouse et à Montpellier. Le maire de Toulouse considère que la direction se comporte en patron voyou, ce qui était l'expression employée par le ministre de l'Industrie Sarkozy du temps de l'affaire Molex. Tout ça pour te dire, pour rester dans ce domaine, il y aura encore de quoi faire quelques émissions en Midi-Pyrénées où de nombreux plans sont attendus. Après Freescale et Molex, dont le procès n'est toujours pas fini, il y aura Thales, Air France, Pilpa et donc Sanofi. Ainsi, tu peux venir voir ici, on y est et on ne lâchera rien. Pas question de négocier un chèque à la valise, on veut maintenir une recherche de qualité sur le territoire, à Toulouse et à Montpellier. Si vous voulez plus d'informations sur les Jeudis de la colère qui sont organisés depuis le 5 juillet, rendez-vous sur la page Facebook, Les Sanofi en un seul mot, ou sur Scoopit, Les-Sanofi. Si vous ne trouvez pas, tapez Sanofric dans n'importe quel moteur de recherche. Voilà. Donc si ta moto te conduit jusqu'ici avec toute l'équipe, je pense que tu seras bien reçu. On te racontera comment une entreprise majeure dans le domaine de la santé, qui a fait près de 9 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, veut virer 1 000 à 2 000 chercheurs pour augmenter la part des dividendes et bien d'autres choses. Allez, portez-vous bien. Gilles, près de Toulouse.
Bonjour à toute l'équipe de la Basse Suisse, c'est Rui Adouven. Alors, Stéphane, pour annoncer, ce vendredi, il y aura le Café Repère à Tonon-le-Bain au bar Le Champ de Coq. J'invite tous les représentants de syndicats et associatifs, nous allons parler de la règle d'or, justement que ça tombe bien parce qu'il y a un appel à Paris. Alors, j'espère qu'on sera nombreux à ce café repère. Daniel, je compte sur toi pour laisser ce petit message pour que les gens soient au courant qu'il y a ce café repère à ton nom. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Et puis, à vendredi 28 septembre, merci beaucoup.
Oui, Daniel, merci beaucoup pour cette émission avec ce mot que j'ai écouté tout en faisant mon petit parcours à vélo, 14 km sur la route de Napoléon, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le bout du monde. C'est beaucoup d'objectivité par rapport à cette histoire avec tant de complexité. Bien sûr, je me posais des questions. Je crois que Shlomo y a apporté quelques réponses et nous pousse à réflexion. Je suis un fidèle auditeur de là-bas, si je suis, même si c'est la première fois que je vous appelle. Je suis un enseignant et aussi un élu de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bravo pour ce que vous faites. Même si mon message est un peu en retard, c'est parce que je l'ai enregistré en podcast et je suis toujours à votre écoute. Continuez ainsi. Merci.
Salut les AMG. Le repère des AMG de Briouze, dans l'Orne, se tiendra le mercredi 26 septembre à 18h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Mercredi 26 à 18h au Brazza, à Briouze. Salut.
Je réfléchissais à ce qu'était la définition de la liberté d'expression et la manière dont Charlie Hebdo s'emparait de cette question. Je pense qu'il serait bon d'interroger Ciné sur cette question par rapport justement à Charlie Hebdo. Donc pourquoi pas recevoir Ciné sur qu'est-ce que la liberté d'expression à Charlie Hebdo. Bonne journée.
Voilà, je suis Marie-Claire Calmu, auteure de Chronique de la Flèche d'Or, et j'écris récemment une chronique sur les mobilisations à partir des grèves de la SNCF. Et j'étais contente de voir M. Mermet citer donc Las Vegas comme un lieu de mobilisation dans les casinos en particulier, ce qui rejoint un article du Monde diplomatique d'août 2012 et témoignage de Madame présidente du syndicat, Madame Aiello Klein, qui dit que 90% des employés de casinos sont syndiqués et qui a donc un regain d'activité et ils obtiennent des choses très conséquentes, comme M. Mermet le citait à propos de Frontier, un des casinos. Voilà. Bon courage.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Salt Lake City, dans l'Utah. Salt Lake City, c'est la capitale des Mormons, et les Mormons, eh bien, c'est cette religion dont fait partie Mitt Romney, le candidat républicain, qui a l'air de perdre un peu de terrain dans les sondages, mais la course à la présidence des États-Unis n'est pas terminée. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est Theo Twoki. T-E-O-T-W-A-W-K-I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « The end of the world as we know ». La fin du monde tel que nous le connaissons. Et oui, il s'agit des survivalistes. Pas tout à fait des survivalistes. Nous sommes avec les preppers. Les preppers, c'est ceux qui prévoient la fin du monde. Alors la fin du monde, eh bien, ce sera une guerre nucléaire, ce sera un krach économique bien plus violent que celui que nous venons de vivre et dans lequel nous sommes encore. Ce sera un météorite qui viendra s'écraser sur la planète ou sur une partie de la planète. Bref, à tout cela, il faut faire face. Face à tout cela, il faut se préparer. Ils sont environ 3, 4 millions, oui, millions, aux États-Unis, à se préparer contre une telle éventualité. Et ils assurent les 3B, 3B, bullets, beans, burned heads, c'est-à-dire des armes, des haricots et des pansements, parce que, eh bien, il faudra survivre dans votre bunker, dans votre abri souterrain. Nous en avons visité et nous avons rencontré ces gens-là. Alors vous dites, d'accord, c'est des allumés, c'est pas étonnant, les États-Unis produisent de façon permanente ce genre de choses. Oui, 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 eh bien, allumés, pas tout à fait. Ce sont des gens tout à fait ordinaires, gentils, sympathiques, ouverts, sauf le moment où, eh bien, lorsque la catastrophe arrivera, eh bien, il y aura ceux qui n'ont pas prévu. Les frivoles qui n'auront rien prévu et qui, bien sûr, viendront massivement autour de ces abris pour essayer de grappiller un peu à manger, un peu d'eau, etc. Et là, il faudra tirer dans le tas. Il faudra se protéger. Voilà pourquoi les preppers, eh bien, s'entraînent, ont des armes et nous ont emmenés dans un stand de tir où nous ont montré comment ils se défendront le jour venu. Alors, qu'ont-ils de commun ces preppers avec bien des êtres humains présents sur cette planète actuellement? Eh bien, ils pensent qu'on ne peut rien à l'évolution des choses, qu'on ne peut pas faire face politiquement ni collectivement aux choses, mais qu'il faut se préparer au pire en se repliant sur soi-même. C'est la métaphore absolue du repli, de l'individualisme, même s'il est familial, et de la guerre de tous contre tous. Voilà ce qu'on vous racontera développer dans nos reportages au retour. D'ici là, aujourd'hui, nous retrouvons Cassandra. Certains se souviennent de cette histoire très ancienne dans la basse Égypte. Il y a une vingtaine d'années, on avait rencontré Cassandra. Et ben, nous la retrouvons aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je cherche des AMG sur Melun, en Seine-et-Marne, et je suis prête à participer à la création d'un repère. Je laisse mes coordonnées à là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour à toute l'équipe, Daniel Mermet. Et là-bas si j'y suis, je crois que Daniel est aux États-Unis pour couvrir la campagne électorale, qui est le grand événement de l'automne. Mais il y a un événement aussi, voire plus important pour moi, qui a lieu dans 15 jours exactement, dans 2 semaines et dont on ne parle pratiquement pas, c'est l'élection de Hugo Chavez, peut-être la réélection de Hugo Chavez à la présidence du Venezuela. J'aimerais savoir si avant de rentrer en France, Daniel va passer par le Venezuela. Voilà, merci, et en attendant, c'est la ligne droite pour ce grand moment pour l'Amérique du Sud, mais aussi pour l'Amérique du Nord, la dernière ligne droite de 15 jours, le dimanche 7 octobre. Merci à vous, au revoir.
Salut à vous tous, le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge aura lieu ce mercredi 26 septembre à 20h30 au restaurant Le Jasmin, rue Joliot-Curie, à gauche sur le parking de la gare, juste avant de passer le pont. Nous avons choisi comme thème de rentrée tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la République, sans jamais oser le demander. Voilà, alors nous vous espérons nombreux, à très bientôt, et salut.
Ouais, salut à tous, c'est pour vous indiquer que le repère de Tourette dans le Var reprend du service vendredi, comme tous les derniers vendredis de chaque mois, à partir de 19h. Le thème abordé, c'est le Festival du Livre de Montsartou, qui aura lieu le premier week-end d'octobre. Et donc, on va tenir le stand des éditions Agone. Pour l'occasion, on réunit vraiment la Dream Team, parce qu'on aura le stand des éditions Agone, avec notamment le DVD de Chomsky et compagnie, en attendant celui sur Howard Zinn. Il y aura les Mutins de Jay avec leur DVD. Il y aura bien entendu Fakir et quelques bouquins de Ruffin. Il y aura également Joli Mom. Et puis, donc, comme on fait le repère sur ce thème-là, on n'a pas l'habitude, nous, sur le repère, que pas un gros repère, en fait, d'avoir des intervenants, mais là on aura un intervenant extérieur, Andrea Visconti, qui viendra nous présenter son bouquin La Diagonale du Foie et qui sera aussi présent avec nous sur le stand Agone au Festival du Livre de Montsartou. Donc on se retrouve vendredi 19h au Latitude à Tourette, derrière Intermarché. Ciao viva, portez-vous bien.
Oh mon chéri, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je te connais. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un homme comme toi un jour.
Je veux pas m'en remettre que c'est un homme, hein.
Quand on se déguise, finalement, à quoi ça sert?
Ben, je me le demande.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Christophe Gallo. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Et moi, ce qui m'a choqué un jour, en bas au facteur, c'est qu'elle avait la barbe. Bon, ben, moi, j'en ai bien.
Cassandra désire avoir un enfant. Mais son mari est impuissant et son amant ne veut pas. Pauvre Cassandra. Cassandra sera-t-elle enfin heureuse un jour? Qu'en pensez-vous? Ne me laissez pas seul à me demander avec Cassandra. Cassandra, eh oui, c'est les feux de l'amour. Les feux de l'amour, c'est un feuilleton. C'est pas en vrai. En vrai, on n'est pas si bien peigné. En vrai, il n'y a pas autant d'aventures, ni de passions, ni de belles voitures. En vrai, c'est plus fade, plus gris. En vrai, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de piano. Quand Gérard sort le gigot, en vrai, c'est pas aussi vrai. En vrai, ça arrive pas ici-bas. Eh ben, si, ça arrive, c'est arrivé. Non, pas à Monaco, pas à Dallas, même pas à Dynasty. Ici, chez nous, en France, à Luxeuil-les-Bains, sur Terre. Ici, pendant des mois, Cassandra, la belle Cassandra était là. Passion, tendresse, un feuilleton en vrai. Avec la grosse surprise à la fin, le gros titre dans le journal. Un travesti en mal d'enfant kidnappe un nouveau-né à la maternité. À tout son immeuble, il, elle, avait fait croire qu'il, elle, était enceinte. Il, elle, a été arrêté. Il, elle, s'appelle Cassandra. Tout ça à Luxeuil-les-Bains. Même à Belfort, ils n'ont pas d'histoire comme ça. Alors, avec Christophe Gallo, on a voulu aller voir, quelques mois plus tard, après coup, après médias, peinards, que reste-t-il de ses amours? Quelle trace, quel sillage à Luxeuil, déjà rendormi? Le ravisseur, la ravisseuse, la ravissante, un peu barbue, Cassandra, les gens, les rumeurs autour, choqués, indifférents, péremptoires, surpris, méchants, ravi, compatissant, perplexe. Les aventures de Cassandra au pays des Français profonds.
Il y a un copain, il faisait la bise. Puis l'homme, il a lu les journaux, il a vu ça et il était dégoûté, quoi. Même il y en a une qui dit que c'est pas vrai ce qu'ils disent dans les journaux.
C'est vrai que c'est peut-être pas vrai. Ça fait un drôle d'effet. Vous embrassez une femme et vous découvrez que c'est un homme. Mais ça, c'est les journaux qui l'ont dit. Mais qui c'est qui est allé voir? Qui c'est qui a la preuve? Un homme? Une femme? Même pas son mari. Son mari, il a dit qu'il s'était pas aperçu que sa femme n'était pas une femme. Ah, un mari qui n'a pas le sens de l'observation. Ça arrive, c'est rare. Mais c'est une histoire rare. C'est là que ça se passe. Ici même, dans cet HLM, à Luxeuil-les-Bains. C'est ici, dans cette tour, au 11e étage, qu'elle habitait. Et là, en bas, c'est le bistrot. Ricard, Pétanque, Blaireau, Travelot. On s'attend à la gaudriole. On s'attend à la bien bonne. On entre et... comme par hasard, Marco dégrafe son corsage. Les gars du village sont là pour donner la gougoute à son chat, comme en rêvait Cassandra.
Rue Babar 473, en peu de temps, pile 3 minutes pour Georges Brassens et Bram Marco.
Oh, on la voyait tous les jours passer. Oh oui, une belle bombe. On la sifflait de temps en temps. Elle s'est retournée, hein. J'aurais pas fait qu'elle me le demande 5 000, moi j'aurais pas été bête. Ah oui, une belle femme. Donc, bien foutue. Belle jambe, tout. Belle jambe, beau corps.
Elle faisait un peu envie à tout le monde. Vous la voyez, vous?
Moi, je connais pas, moi. Je dis rien.
Non, lui, ouais.
Aïe, aïe, moi. Tu veux rien entendre de moi, comment?
Non, faut pas dire qu'elle a guichet, non, c'est pas vrai. C'était une belle femme. Puis ce journal, ils n'ont rien expliqué non plus, hein. Ça a été étouffé, ça.
Les gendarmes sont venus, il était quelle heure, 11h le soir, ou minuit, je sais pas, un truc comme ça.
Ils sont venus les arrêter ou un truc comme ça dans la tour. Je ne savais même pas que ces gens habitaient là, moi. Franchement, on ne le connaissait même pas. Les gendarmes sont venus. J'ai un collègue de café qui sortait d'ici, un collègue, hein, à moi. Il voulait revenir pour me dire, tiens, il y a des gendarmes autour de la tour. On ne les a même pas vus, les gendarmes. Ben, ça s'est venu, ça s'est fait rapidement, je sais même pas, je la connaissais même pas, moi, alors, on peut pas dire.
C'était une femme sympa, gentille, elle rend service, c'était très très gentil.
Et alors vous, vous la connaissiez comment? Quelles étaient vos relations?
Moi, je l'ai connue dans le couloir, on va chercher les boîtes à lettres, et puis il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit t'habites où? Je lui ai dit au cinquième, il m'a dit ben, je vais venir chez toi. Ben, je lui ai dit si vous voulez, oui, ben, je lui ai dit oui. Alors, on monte chez elle, elle vient chez nous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'esprit, t'as rien du tout. C'était une femme qui est très, très, très gentille. Elle a le cœur sur la main. Elle n'est pas violente. Elle est correcte. Mais elle n'est pas violente. Hein. C'est une femme qui est très gentille.
Et de quoi vous discutiez, alors?
Ben, on discute de un petit peu de ménage, de la maison. Ma fille, s'il a besoin de quelque chose, elle prête. Même, il n'a même pas rien, une robe ou quelque chose pour sortir, pour aller aux boîtes, elle prête sa robe, elle est confiance. Oui, des trucs de femmes, de ménage de femmes, des hommes. Ben, elle me dit, moi, je suis mariée, j'en ai assis, hein, j'en ai à la maison, il m'énerve déjà. Ben, je lui dis, écoute, Sandrine, il faut tenir le coup, etc. Acheter des meubles et tout. Et puis, c'est des jeunes, moi, je trouve. Lui, il est jeune plus qu'elle.
D'après cette voisine et amie, elle, c'est toujours elle et elle est toujours là. Lui, c'est le mari, c'est le mari de Cassandra. En principe, c'est lui l'homme et Cassandra, la femme, même si Cassandra est un homme aussi. Eh ben non, le mari, c'est la gringalette et Cassandra, le travelot, c'est celui qui en a. Vous comprenez? Non, attendez, voilà le fils de la dame, témoignage.
Elle a réussi à faire croire à son entourage, qui était très minime, c'est-à-dire Yasmina, Pauline, les amis qui l'aimaient beaucoup, qu'elle était déjà enceinte, puis qu'elle attendait deux jumeaux. Et durant un départ, précipitée, puisqu'elle voulait faire croire aux autres qu'elle n'allait pas tarder à accoucher, elle a téléphoné à son amie la plus proche, Pauline, en lui disant qu'elle avait accouché, mais qu'elle avait perdu un des deux jumeaux. Elle est revenue 3 heures après son coup de fil, avec cet enfant qu'elle n'a pas voulu qu'on voie, quoi, parce qu'elle ne voulait pas du tout qu'on le voie. Et durant sa grossesse, elle ne supportait pas qu'on lui touche au ventre. Elle disait que c'était un outrage à sa grossesse. Il ne fallait pas du tout toucher son ventre, voir si vraiment elle avait un bébé. Elle ne voulait pas du tout ce qu'on fait habituellement avec les femmes enceintes. Moi, personnellement, je veux dire, je l'ai vue trois fois de très près. Elle était à 2 mètres de moi. On a beaucoup discuté, au moment. Et je vous assure que la transformation était parfaite, quoi. À 100%, j'ai vu que du feu, quoi. Et personne ici ne savait vraiment qu'elle était... mis à part qu'elle avait ce côté... une dame n'a pas le bouc, n'a pas tout ceci, et elle était assez poilue, quoi.
Oui,
Et elle disait que c'était parce que c'était... Elle disait que c'était dû à son origine. Elle disait qu'elle était... qu'elle avait des dérivées portugaises, et puis que c'était à cause de ça, si elle avait du duvet, si c'était... Mais en fait, si on s'était vraiment posé la question, peut-être qu'on aurait douté sur sa vraie personnalité, quoi, ça, déjà.
Elle a dit qu'elle a pris un médicament, et puis le médicament, elle a tourné, et c'est comme ça, c'est la barbe qui a commencé à pousser.
Elle s'attachait beaucoup au passé, tout en disant que lorsqu'elle était jeune, avant qu'elle soit enceinte, c'était une fille assez séduisante. Et dû à cette grossesse, elle était assez complexée. Elle ne voulait pas trop qu'on la voie. Moi, je sais que lorsqu'elle venait ici, elle restait pas longtemps, 10, 20 minutes, le temps de boire un café, elle remontait très vite chez elle. Et c'est vrai qu'elle avait, elle avait les qualités pour être une charmante jeune fille. Mais...
Elle vous a parlé de sa jeunesse, justement, de son passé?
Tout ce que je sais, moi, c'est qu'elle vivait à Toulouse. C'était la ville rose, la ville de la musique, et là, elle s'y sentait bien, quoi. Et c'est peut-être dû au tumulte des gens que quand on voit une fille un peu bizarre physiquement, on se pose pas tellement la question vu qu'on en voit pas mal. Mais là, je crois qu'elle a été obligée de se faire une ou deux copines à qui elle a confié 2 ou 3 choses afin d'affirmer qu'elle était vraiment femme, quoi. Pour les empêcher d'essayer de découvrir s'il y avait pas... Mais elle y a réussi, quoi, vu que ses amis continuent à lui écrire n'importe comment. Elle continue à nous écrire. Son mari... Oh, c'est coincé. Je sais qu'il n'aimait pas du tout la vue des autres. Je sais que la plupart des fois où je suis monté chez eux, il n'était jamais là, de toute façon. Il était soit enfermé dans la salle de bain ou dans le balcon. Ou... Il était impossible de le voir, c'est clair. Hein. Il ne voulait pas qu'on le voie, quoi. Ou la plupart du temps où il apparaissait, c'était pour se disputer avec Cassandra et après claquer la porte pour aller s'enfermer soit dans les toilettes, soit dans la salle de bain. Je sais qu'elle était un peu plus grande que mon père, c'est-à-dire un bon 1m80. Et puis, imposante, qu'elle était bien forte, quoi. Elle devait faire pas loin de... un quintal, pas loin de 100 kilos, quoi. Elle était là, quoi. Des bons jambons, quoi. Et je sais que son mari, son petit ami, avait très peur d'elle, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'enfermait, puisqu'il évitait, il évitait de se battre avec elle, quoi. Puisqu'elle avait toujours le dernier coup, quoi, physique. Ma sœur, elle a pu assister à quelques scènes. Sa copine aussi, Pauline. C'était assez bruyant, quoi. Assez vivant.
Au fond, on est tous des travestis. Tous... On rêve d'être quelqu'un d'autre, des déguisés. On est tous, au fond, des déguisés contrariés. L'homme est le seul animal qui ne s'accepte pas tel qu'il est. Déguisé, Panoplie, D'Artagnan, policier, Mickey, quelqu'un d'autre, une autre peau. Ma femme me dit parfois, mets-toi à ma place. Eh bien, un coup, je devrais bien essayer. Imaginez, si j'étais ma femme, si j'étais à la fois... Une femme, ma femme et moi. Fini le manque, fini la quête, comblé, pas double, mais entier, complet, total, enfin seul, avec les ailes d'un ange ou d'un aigle à deux sexes. En parlant comme ça, j'agite probablement de très anciennes histoires, des manques, des mythes qu'on a trouvés dans le berceau du monde, rose bonbon et bleu layette. Cassandra joue à la poupée. Et mieux, elle joue la poupée. Et mieux, elle est la poupée. Acteur, actrice, incarnation. Elle entre dans la peau du personnage. Une femme. La peau du personnage dont on est tous sortis. La mer, l'intérieur, l'avant, le paradis. Cassandra y retourne. Et puis, elle grandit. 1m80. Beau brin de femme. Dans la peau de ce personnage, dans la peau de cette femme, il faut de la chair, il faut de la vie, un bébé, un vrai à tout prix. On peut raconter l'histoire comme ça, mais aussi comme la raconte Madame Bergeret, une voisine de l'immeuble.
Alors, moi je connais Cassandra, de me trouver avec elle quand on va au facteur le matin. Voilà. Il n'y a qu'une chose une fois qui m'a choquée. On a un boulanger qui passe là-devant. Elle était en robe légère. Elle avait aux pieds des spartiates d'hommes. Et comme moi, je suis un peu moqueuse de nature, j'ai dit à une dame qui se trouvait là, mais je lui ai dit, Cassandra, elle ne doit pas tomber les jours de grand vent, parce qu'elle a des drôles de pieds. Parce qu'elle avait des pieds pour une femme, voilà. Mais autrement, elle habitait au... C'est l'onzième, je crois. Hein. 11e étage. Elle n'embêtait personne. Ouais. Elle vivait avec un petit gars, ma foi. Ça, c'était leur affaire. Hein.
Oui.
Bon, disons que j'ai 73 ans, j'ai vécu. Je suis sortie. J'ai été à Paris, j'ai vu des travestis. J'étais à Besançon, j'ai vu ça. Ici, qu'ils ignorent. Ici, ils trouvent tout bien. Bon, voilà. L'histoire de son ventre. Moi, je trouvais qu'elle avait un... Parce qu'une femme enceinte, elle a un ventre quand même bien arrondi. Alors elle, moi, je trouvais qu'il était... Elle avait un ventre, mais bizarre, sur les côtés, sa forme. Bon, vous voyez, j'ai pas été la palper pour voir si c'était des coussins. Hein?
Mais vous vous êtes fait avoir, ou est-ce que vous aviez un doute, mais sans penser que ça pouvait être ça, ou est-ce que vous étiez sûr de vous et que vous gardiez ça pour vous?
Ben, c'est-à-dire que, on était plusieurs personnes du même âge. Quand on se rencontrait, on était, je sais pas, elle attirait le regard, il y avait quelque chose qui n'était pas net. Et moi, ce qui m'a choqué un jour, en bas, au facteur, c'est qu'elle avait la barbe. Moi, j'en ai bien. J'ai bien un petit peu de moustache. Alors, c'est des choses, hein.
Il n'y a pas vos escalopes qui brûlent, là?
Non, attendez, c'est le gaz, mais c'est pas les escalopes. Mais ça me trouve que c'est bien, quand même, éteint. Ça sera plus bien.
Oh, mon chéri. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je te connais. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un homme comme toi un jour. Tu ne vas pas repartir au travail, dis-moi.
Oh, c'est un petit gringalet, moi j'en reviens. Ça faisait... bon, disons que c'était double pâté patachon. C'était tout petit, puis elle était grande. Alors ça choque de les voir ensemble. Mais enfin, ce que je trouve qui n'est pas bien, ça ne me rappelle pas, mais c'est que, bon, ben lui, c'est... Hein, il n'avait jamais vu que c'était un homme. Et il y avait 8 mois qui couchaient à côté. Ça, c'est gros à avaler, parce que ça, c'est... Bon. Non, mais elle marquait bien, hein, celui qui la voyait dans la rue. Je suis sûre qu'il y en a bien qui sont cessés. Prendre, qu'est-ce que vous voulez? T'es bien coiffée, c'était ses cheveux, hein, c'était pas une perruque. Hein. Elle était blonde, elle avait les cheveux jusque sur les épaules. Elle se tenait bien, elle se maquillait légèrement. Pas fardée comme il y en a qui font, vous savez, il y en a qui se mettent énormément de maquillage. Non, elle était bien. Moi, la chose qui m'avait choquée, c'était ses pieds.
C'est vrai quand même que le mari, enfin l'amant, était un petit peu tête en l'air, hein, un petit peu pas tellement le sens de l'observation, mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas des flics. Moi, je pense quand même, depuis Néandertal, c'est incroyable ce que l'homme a fait sur la planète. L'homme et la femme, c'est fou. Ces efforts inlassables, c'est touchant, c'est formidable. N'empêche, quand on a fait des inventions, eh ben, il n'y a toujours que deux sexes. Deux malheureux sortent de sexe. Bien sûr, vous pouvez changer de sexe, mais c'est pas du gâteau. Non, on en était. Ah oui, Joël. Joël, c'est le vrai nom de Cassandra.
Mais ne sachant pas, faut savoir d'où elle sort, d'où il sort ce garçon qui s'appelle Joël, entre parenthèses. Bon, faut savoir d'où il sort. Peut-être qu'il a manqué de quelque chose, qu'on ne sait pas. Faut pas juger les gens, c'est justement c'est ce que je vous dis. Faut pas juger un gars parce qu'il fera ci, parce qu'il fera ça. Reste à savoir dans le milieu familial où ils ont vécu.
Vous avez eu des enfants ?
Ah, moi j'ai des enfants, mais j'ai 2 filles, moi.
Et la maternité, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
Ça représente la femme, disons que c'est le rôle de la femme, hein, d'être mère. Parce que la femme, elle est femme, elle est maîtresse, elle est mère. Hein, faut pas l'oublier, ça.
C'est pas un peu émouvant de savoir qu'un homme a eu cette envie-là
et ben, si, c'est ça, c'est ce que je me demande. Moi, je le critique. C'est ce que j'ai dit, je le dis quand on en parle, parce qu'on en parle des fois quand même. Hein. Moi, je dis, c'est quand même à savoir comment ça se fait qu'il avait quelque chose pour avoir cette idée. Là, ça vient pas, ça, c'est pas un travesti, un gars qui s'habille en femme et puis qui. Non, il y avait quelque chose qui part en dessous qui est. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre.
Et pour vous, ça veut dire quoi, se travestir, se déguiser ?
Ah ben, quand j'étais jeune, hein, maintenant, on n'en parle plus, parce que j'aurais plutôt l'air, je dirais, la vieille, elle a passé l'air de l'autre côté. Et d'abord, moi, je suis souvent en pantalon, même à l'âge que j'ai.
Quand on se déguise, finalement, à quoi ça sert ?
Ben, je me le demande. Parce que nous, dans notre temps, on n'avait pas les habits que les gens ont maintenant, parce que maintenant, il y a des maisons qui vous louent des vêtements, qui vous louent tout. Celui qui veut se déguiser à l'heure actuelle, il y a vraiment des beaux, hein, il y a des belles choses. Bon, ben, moi, je sais que je mettais les habits de mon père, ma sœur mettait les habits de maman, ma sœur se mettait de la farine, puis moi, je me mettais du noir du fourneau. Voilà.
Mais vous étiez travestie, alors ?
Eh ben voilà, c'est ce que je vous dis. Elle allait à la maternité suivre les cours d'accouchement sans douleur. Alors, seulement la seule chose qu'ils avaient remarqué, c'est qu'elle montait vers les couveuses. Elle était toujours vers les couveuses. Donc, elle avait quand même une idée bien arrêtée de vouloir prendre un enfant. Hein.
Elle avait tout organisé, vraiment.
Ah, oui, tout était bien organisé. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Elle a quand même ramené le bébé. Dans son malheur, elle a eu de la chance. Elle a ramené le bébé qui avait 3 heures, hein, qu'il était au monde. Elle l'a mis dans un sac sport. Elle a de la chance que c'était un enfant qui était fort, qui avait les poumons solides. Hein. Alors quand elle est arrivée ici à la tour, moi je ne l'ai pas vue, mais il y en a qui l'ont vue. Elle est arrivée, elle avait le bébé sur les bras. Elle l'a sorti de la voiture, elle l'avait sur les bras.
C'est beau, hein? C'est beau. Quelle belle histoire. Si vous avez raté le début, c'est bien simple. Cassandra, un travesti, kidnappe un bébé. Il, elle... avait fait croire à tout le monde qu'elle était enceinte. Est-ce que tout le monde l'a cru ? En tout cas, son amant, Christian, lui, il a cru que c'était une femme. Cassandra n'a pas fait de difficulté pour rendre le bébé quand les gendarmes sont arrivés. Cassandra, ou Joël, a été écroué pour enlèvement d'enfants, même si les parents, les vrais parents du bébé, qui s'appelle Mario, ont enlevé leur plainte. Elle est inculpée pour faux en écriture publique parce qu'il y a eu du bricolage sur sa carte d'identité, ah oui. Voilà. On continue ? Bon, témoignage d'une voisine et copine.
J'en voyais tous les jours.
Pour moi, c'était une amie. Pourquoi ? Parce que bon, ben, elle m'écoutait quand j'en avais besoin. Puis elle se confiait beaucoup à moi. Elle me rendait beaucoup de services. Et puis bon, ben, enfin, il n'y avait pas qu'à moi, il y avait aussi à d'autres copines. Puis bon, ben, ouais, elle nous aimait bien. C'était quelqu'un qui aimait bien qu'on s'occupe d'elle, qu'on la complimente et puis tout ça. Bon, ben, ils ne travaillaient pas tous les deux. Lui, il en avait marre. Et puis il y avait aussi sur le plan affectif. Pourquoi ? Parce que bon, ben. Lui, il ne lui montrait plus qu'il l'aimait, soi-disant, enfin, c'est ce qu'elle nous disait, qu'il la trouvait grosse, qu'il avait honte d'elle, enfin, que c'était plus pareil, que c'était plus les mêmes sentiments qu'il avait avant, enfin, les premiers jours. Et puis lui, peut-être qu'il avait l'impression d'étouffer, je pense. Parce que c'est pas bien de toujours retenir quelqu'un, de tout le temps l'avoir pour soi-même. Il faut laisser un peu de liberté, ça fait pas de mal. Et puis elle, c'était, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi. Puis lui, il en avait marre, hein.
Mais elle l'impressionnait un peu physiquement, ça devait être...
Oui, oui, parce qu'on est à sort, on est arrivé, ils se disputaient, puis ça a fini en bagarre. Mais je vous assure que ça rigolait pas, parce qu'il y a quand même eu un trou dans un mur. Elle a donné un coup de pied dedans. Alors déjà nous, mais on tape dans un mur, on a déjà mal, juste on n'est pas plâtré. Alors elle, enfin, il était pas trop sympa avec déjà. Hein. Elle se débrouillait pour lui... Il était toujours pareil avec elle. Hein. C'est pour ça, moi, à la force, il me dégoûtait plutôt qu'autre chose. Elle faisait des trucs, même à la maison, attention, elle cuisinait hyper bien d'ailleurs. Elle faisait de la couture, tout comme une femme, hein. Tout. Hein. Même la chambre du bébé, moi, je l'ai vue. Hein. C'est magnifique. Hein.
C'était comment ?
Ben, c'était une petite chambre de bébé, il y avait le lit, les nounours, la batte de baseball... Et des placards, c'était plein d'habits, beaucoup de jouets, c'était une chambre d'enfant.
Jolie, c'était bleu, c'était...
Oui, c'était bleu, elle allait mettre des rideaux jaunes aussi, avec les papiers peints, tout allait. Hein. C'était elle qui avait fait tout un décor, elle était fière.
C'était comment ?
C'était très, très coquet, j'aimais bien comme c'était dedans.
C'était quel style ?
Eh bien, déjà les rideaux, c'était des rideaux noirs, c'était du satin, ça faisait une doublure, mais ça faisait un style. C'était table en verre... tout du meuble noir. C'était moderne, un style assez cool. Petite télé, c'était bien. C'était... Pour un couple, c'était suffisant et puis c'était bien aménagé. Enfin, je sais que, je sais pas comment elle s'est débrouillée pour avoir tous ces meubles, parce que tout était neuf. Mais elle connaissait beaucoup de monde hein, à l'extérieur. Hein. Sur Toulouse, tout ça, elle connaissait beaucoup de monde. Hein. Parce que moi, elle m'avait déjà demandé de téléphoner à des amis pour raconter les petits bobards, quoi, pour que certaines personnes s'inquiètent pour elle. Mais c'était pas ici, c'était souvent sur Toulouse, quand même. Et puis Paris.
Quel genre de coup de fil ?
Oui, du style « Allô, oui, je suis une amie de Cassandra ». Parce qu'elle faisait croire aussi qu'elle était hôtesse de l'air, à l'aéroport de Mulhouse. Et puis moi, je sais pas, ça arrive des fois de faire exprès, puis exprès pour se faire remarquer, pour qu'il y ait plus d'attention. Et puis, moi, elle me disait de faire ça. Et puis, les gens s'inquiétaient, téléphonaient. Puis, elle décrochait. Oui, je suis rentrée. Ça va mieux. Des trucs comme ça.
Mais alors, qu'est-ce que vous racontiez, vous ? Qu'elle était hôtesse de l'air ?
Ben, elle me disait comme ça. Tu dis que je suis hôtesse de l'air. Et puis, tu dis que j'ai eu un problème, que j'ai glissé les escaliers, que je me suis cassé une jambe. Qu'on a été obligé de me rapatrier. Et puis, des fois, moi, je le faisais. Enfin, si c'était pour lui rendre service.
C'était un homme, toujours ?
C'était des hommes, oui, c'était des hommes.
Est-ce que vous avez été séduite par elle ? Est-ce qu'il y a eu un genre de sentiment un peu ambigu avec elle ?
Ben, à la force, oui. À la force, oui, parce que quand même... elle était aussi indécise des fois. Hein. Je ne savais pas trop ce qu'elle voulait, mais... Oui, après, j'ai commencé à m'attacher... Hein. Enfin, je veux pas m'offrir des fleurs, mais elle m'aimait bien. Tout de suite, elle m'a tout de suite pris. Et moi, c'était... Je suis avec mes autres copines, c'était pas pareil. D'abord, je vois, il y a qu'à moi qu'elle écrit. Sur les deux autres personnes, sur les trois, il y a qu'à moi.
Vous étiez séduite par elle ?
Oui, oui. Puis, bon, ben moi, elle me disait tout le temps comme ça. Oui, si un jour Christian part, tu viens vivre avec moi. Qu'elle me disait. Et puis, elle me complimentait tout le temps sur mes cheveux ou des trucs comme ça. Ben ça, c'est la première hein, de lettres. Celle-ci, elle me l'a écrit le 14 juin 93.
Alors, Yacina et Pauline, c'est moi, Cassandra. J'ai été surprise de vos lettres. Elles m'ont été données le lundi 12 juillet. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis désolée de vous avoir pas mis au courant de ma situation. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire aussi ce qui a été dit sur moi et ont-ils donné mon nom? Sinon, pour moi, la prison est très dure. J'ai souvent envie de craquer et j'ai envie d'en finir avec ma vie. Quand j'ai lu vos lettres, j'en ai pleuré car j'étais surprise. Je ne me doutais pas que vous resteriez amis avec moi, car on peut dire que tout le monde m'a laissé tomber. Et vous êtes quoi? Et vous êtes vraiment de vrais amis. Vous me manquez et j'espère que vous êtes vraiment sincère quand vous me dites pour vous, je resterai toujours votre Cassandra. Et je ne sais pas encore combien de temps je serai là. Mais je vous mettrai au courant. J'ai fait tout ça pour Christian car j'avais peur de le perdre. Car je l'aimais et au fond de moi, je l'aime encore. Comme on dit, les hommes ne valent pas la peine qu'on se mette en quatre pour eux. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que je n'étais pas une femme et que j'attendais pas d'enfant? Dites-le-moi franchement. Je vous aime beaucoup. Que faites-vous? Est-ce que vous sortez en boîte? Est-ce qu'on parle encore de tout ça à Luxeuil? Je vous laisse, à très bientôt. Cassandra. Voilà.
En fait, elle a fait ça pour lui?
Pour lui, bah oui, elle le dit. Hein. Il y avait quelqu'un qui pouvait savoir pourquoi elle avait fait ça. Hein. C'était pour lui, apparemment. Hein. Pour le garder, pour lui montrer qu'elle l'aimait, qu'elle voulait avoir un enfant avec. Et puis la seule solution pour elle, pour le garder, c'était d'enlever un bébé, étant donné que c'était un homme qu'elle ne pouvait pas en avoir. Avec ça, hein.
Comédienne du quotidien, enchanteresse ambiguë, séductrice imprévue, un peu de tendresse, hors la loi, chez les séparés dans les grands ensembles. Aussi sincèrement que chez les arrogants, un rayon de soleil trouble dans le petit train-train, le feuilleton sort de l'écran et se répand sur le canapé à crédit.
Et là, c'est peut-être un hasard, on se trouve dans ton salon, chez tes parents. Et juste derrière le canapé, là, sur le mur, il y a un poster avec un monsieur, un jeune homme, très musclé, très beau,
ouais,
qui tient dans ses bras, il est nu, enfin, il est torse nu au moins, et il tient dans ses bras un bébé qui a à peine...
3 mois, 4 mois.
Qu'est-ce que ça fait là, ça?
Ah non, ce poster, moi, j'ai trouvé très beau d'abord, parce que j'adore ce style d'image, en plus. Alors, ouais, j'ai craqué. J'ai voulu le mettre là, pourquoi? Parce que... Je sais pas, je le trouve très beau. Enfin, le poster, hein? Puis même l'image de l'homme avec un bébé, c'est... C'est trop, quoi. Ça, c'est...
Qu'est-ce qu'il y a d'émouvant là-dedans?
C'est une image paternelle, c'est... L'homme qui tient son bébé... Enfin... Son enfant.
Tu trouves pas aujourd'hui, après... Après que tout ça soit passé, que c'est un peu troublant de voir ce poster-là chez toi?
Oh si, bah, quand on y réfléchit bien, ouais. Mais...
T'imagines ce jeune homme travesti en femme?
Ce jeune homme en femme? Oh non, je le vois pas en femme, moi. Peut-être que Cassandra, elle y a pensé, hein. Parce qu'elle l'aimait bien, hein, ce poster, hein, je vous assure, hein.
Qu'est-ce qu'elle disait face à ce poster?
Donc, qu'elle aimait bien le mec, elle. Sérieusement, hein, elle aimait bien. Hein. Le bébé, elle n'en parlait pas. C'est plutôt le bonhomme qu'elle regardait. Hein. Attention, hein, elle était tout partout, Cassandra. Hein. Oui, non, mais elle l'aimait bien, ce poster. C'est vrai, mais c'est vrai, il est beau.
Ouais, bah ça a mal fini, hein. T'as très très mal fini. À 13h30, le bébé est né. À 17h, Cassandra était à la maternité. À 18h, elle est arrivée à l'immeuble avec le bébé dans les bras, champagne. Et puis, ouais, le soir même, la tour était encerclée. Gendarmerie.
Il y avait une 309 crème. Et puis bon, ben, les gens, comme ils sont curieux, tout le monde était en bas, tout le monde avait vu que... Enfin, c'était les gamins, le plus qu'avaient vu. Hein. Puis moi, je me penche par la fenêtre, puis j'avais vu. Enfin, les policiers, la voiture. Puis ma mère est descendue, comme ça, par curiosité. Hein. Et puis, ben, c'était là qu'elle avait vu Cassandra avec les menottes dans la voiture. Elle baissait la tête, elle avait honte. Elle était gênée, hein, parce que comme elle connaissait bien ma mère, elle était gênée. Puis donc, ma mère a demandé à un policier ce qui s'était passé, tout ça. Puis il lui a dit comme ça, ben, vous verrez tout ça demain dans les journaux. Vous saurez tout ça demain dans les journaux. C'est en première page.
C'est exactement ce que je vous ai dit l'autre jour quand vous m'avez interrogée. Et j'ai des preuves de ce que j'avance, si vous voulez vérifier.
Ah non, personne ne nous accuse de quoi que ce soit, madame Olis.
De toute évidence, vous vérifiez mon alibi.
Non, non, ça a déjà été fait.
Je ne vois pas pourquoi vous êtes si déterminée à avancer d'autres théories.
Moi, je dis qu'on n'a rien remarqué. Pour nous, c'est une femme. Hein? Ça a toujours été une femme. Très sympa avec nous. Bonne copine. On s'amusait bien avec. Enfin, s'amusait. Je veux dire, on passait des disques, on nous passait des cassettes, tout.
Quel genre
elle
de disque?
Elle dansait encore bien, ben, du disco.
Ouais.
Ouais. Ben, ma foi, on a même dansé, tout. On s'amusait bien avec elle, tout.
Toutes les deux, toutes les trois,
ben, quoi. Même plusieurs. Même mon fils, tout ça, avec des copains, tout. Des copains à mon fils. Ben, personne n'a rien remarqué, hein. Et moi, j'ai du mal même de croire que c'est vraiment... que c'est un homme, parce que même maintenant, encore à maintenant, je ne peux pas me dire... je ne peux pas m'en remettre que c'est un homme, hein.
Alors, racontez-moi ces soirées, alors, c'était vraiment sympa?
Ah oui, c'était très bien. Et elle dansait très bien. Super, mieux que nous.
Et alors là, je vois que vous avez presque une discothèque à la maison, avec une table de mixage, avec deux platines pour faire des mixages, des cassettes. Vous avez plein de matériel, des disques partout?
Partout.
Ça, vous êtes passionné?
Nouveauté et tout, nouveauté.
Et on peut écouter un disque que vous écoutiez avec elle?
Oui, c'était quoi comme cassette? Vas-y voir. Bon. On va danser alors.
On met tous les boutons en marche.
Il faut que je le donne à réparer aussi parce qu'il est... Ça vous va comme ça? Ça vous va comme ça?
Et alors vous avez les boules pour au plafond, les boules qui font
oui,
des...
tout, ça s'allume ma foi. Il y a pour les slow, il y a un peu tout, les jeux de lumière.
On peut allumer aussi la lumière? Stromboscope.
Vous voulez tout?
Ah ouais, la totale.
Alors, pour faire les slow là-haut, boule qui tourne, jeu de lumière qui... Vous avez là aussi. Vous voyez? Vous le voyez comme moi?
Ah, il y a beaucoup de matériel.
Il y a beaucoup de matériel.
C'est impressionnant.
Hein? C'est bien.
Et alors, elle est descendue chez vous aussi pour faire la fête?
Ah oui, elle descendait. Elle descendait chez moi, puis on allait chez elle aussi, parce qu'elle avait des cassettes qu'on y a fait aussi et tout. Elle est passée, on dansait sur sa terrasse, parce qu'elle a une terrasse, hein, que nous, on a rien, on n'a pas de terrasse. Hein.
Et alors, c'était vraiment la grande fête, vous dansiez comme des fous. Hein.
Voilà, c'est vrai. Ça y est, on éteint tout, on peut? Vous voyez comme moi. Hein. Elle aimait beaucoup cette musique-là. Elle dansait très très bien sur cet air de musique.
Venez vite, c'est commencé.
C'est commencé?
Oui.
Et tu peux me croire, chaque
centime. C'est ce qui s'appelle démarrer de mon pied.
Là. La jeune fille, là, qu'elle est au milieu, que vous voyez, elle s'est mariée avec un jeune homme qui a hérité d'une grosse fortune de son père. Mais elle ne le sait pas. Alors, la maman du jeune, elle voudrait lui faire signer un papier que si elle vient à divorcer, qu'elle n'acceptera pas de prendre la moitié de la fortune. Et l'autre jeune femme blonde... Et le jeune homme, là, c'est des amis qui l'ont hébergée parce qu'elle a eu, avant d'être mariée, elle a eu bien des problèmes. Voilà. Puis la belle dame blonde, là, c'est encore un autre couple. Alors, elle se prénomme Nikki. Elle est divorcée avec son mari. Elle a deux enfants. Le mari dit qu'il s'est remarié, c'est pas valable, parce qu'il n'y a pas 6 mois qu'ils sont divorcés. Alors... Alors, elle va pour se divertir un peu, pour se sortir de sa maison. Elle va dans un genre de discothèque, si vous aimez mieux. Hein? Mais sans arrière-pensée, c'est pas pour chercher fortune. Puis elle va avec une amie qui est veuve aussi. Et son mari l'a appris incidemment et il est allé les guetter dans cette... où, naturellement, étant deux belles dames, elles avaient tout autour d'elles des messieurs qui leur faisaient la cour.
Je crois que Victor mérite un peu mieux que cette Léana.
Ce qu'il lui faut, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il lui faut, c'est vous.
Eh bien, cela ne fait pas partie de mon plan. Seulement, voyez-vous, je ne supporte pas de le voir gâcher sa vie comme ça. Il faut que je m'occupe de son bonheur malgré lui.
Je ne vous avais encore jamais vu aussi sûr de vous. Vous avez un atout dans votre manche, n'est-ce pas?
On ne vous a jamais dit que vous êtes trop curieux.
Si, de nombreuses fois, mais ça n'a rien changé. Je préfère dire que je suis d'un naturel inquisiteur. Mmh. Alors, dites-moi, quand avez-vous l'intention de lancer votre attaque?
Et tout de suite.
C'est la vie, c'est réel, à ce que voilà. Bon, ben, en ce moment, c'est Cassandra. Puisque c'est Cassandra. Cassandra, je ne sais plus. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle est quoi? Architecte décoratrice. Alors, c'est son rôle d'aller chez les gens pour faire, vous savez, les appartements, ceci, cela. Voilà. Mais là, elle n'était pas architecte décorateur. Là, c'était rien du tout. Il ne travaillait pas ni l'un ni l'autre.
Et quelle est la relation entre le feuilleton, ce que vous savez du feuilleton, et ce que vous savez d'elle dans la tour?
Ben, je pense qu'elle avait copié. Peut-être a-t-elle vu le feuilleton. Je pense qu'elle avait copié parce qu'elle avait... elle se coiffait comme Cassandra. Elle était blonde comme elle parce que normalement, il était brun. On voyait des fois sa racine de cheveux. Quand elle n'avait pas fait sa coiffure comme il faut. Alors je présume qu'elle avait peut-être copié là-dessus cette histoire-là.
Et dans l'histoire
de... Et dans l'histoire de Cassandra, la télévision, son mari est impuissant. Alors elle aurait voulu que son amant lui fasse un enfant. C'est pareil. Elle voulait un enfant aussi. Mais là, c'est une femme, alors ce n'est pas la même chose quand même que là.
Mais c'est elle qui voulait un enfant.
Oui.
Dans le feuilleton.
Oui, dans le feuilleton.
Et son mari?
Ben, son mari, il ne pouvait pas... Alors, ça, c'est assez difficile, hein. Puis son mari, ne pouvant pas avoir d'enfant, ne voulait pas, par exemple, passer par toutes ces choses qu'ils font, là, vous savez, ces machins artificiels. Et tout, son mari ne voulait pas ça. Et puis elle non plus. Alors elle aurait voulu un enfant de son amant. Et son amant a dit que ça donnait beaucoup à réfléchir, parce que s'il lui faisait un enfant, lui, puis que c'est elle qui l'élève avec son mari, que lui, ses instincts paternels, il serait obligé d'aller voir cet enfant. Et c'est vrai, ça. Bon, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous vous dire que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, mais il ne faut pas l'envoler, hein, parce que c'est terrible, ça. Mais enfin, d'après Léon X, soit disant que les parents auraient retiré leur plainte. Hein. Mmh. Alors, c'est des gens encore bien... Il faut dire qu'elle ne lui a pas fait de misère, rien. Hein. Elle avait volé l'enfant parce qu'elle voulait un enfant. C'est un gars qui avait quand même quelque chose... Il avait du féministe en lui. Parce que disons qu'il avait un appartement qui était bien tenu. Et aux fenêtres, il avait bien arrangé de très jolis rideaux. Que bien des jeunes femmes dans la tour qui font bien les pimprenelles, qu'elles n'ont pas de rideaux. Et puis elle tricotait. Bon, c'est féministe, ça, quand même, tricoter. J'ai l'impression que c'est Cassandra qui a fait tuer son mari, parce que hier on la voyait qu'elle a acheté des belles toilettes rouges. Il n'y a pas longtemps que son mari est tué, elle a acheté une belle toilette rouge, une belle bleue, les chaussures pareilles, enfin tout. Puis elle téléphone toujours à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, on ne voit pas la personne à qui elle téléphone, mais c'est quelqu'un qui lui dit oui, qu'elle est prête à aller ici, aller là. Alors...
Salut Léana, c'est Ricky.
Ah, voilà.
Pourtant, je ne suis pas partie longtemps.
Eh bien, le temps, mon chéri, tu ne me demandes rien. Je veux dire, il y a certaines personnes qui peuvent partir des années sans qu'on s'ennuie d'elles, et il y en a d'autres, comme toi, qui transforment chaque minute en heure pour celle qui attend. Oh, mon chéri. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je te connais. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un homme comme toi un jour. Tu ne veux pas repartir au travail, dis-moi.
C'est
C'était Cassandra, une nouvelle diffusion d'un reportage de Christophe Gallo. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny, Maxime Anna et Anne Le Guenec. Cette émission a été réalisée par Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistée de Pierre-Yves Bulteau et Solène Cordier attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances ?
T'es sûre ?
Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander.
Ok, je sors les valises.
Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la Fonction publique et de l'ANCV.
Si t'es fier de ta région,
aime ton euro.
Si t'es fier de ta région,
aime ton euro.
Si t'es fier de ta région,
si t'es fier de ta région, aime ton euro.
Les euros des régions de la Monnaie de Paris sont de retour. Pour découvrir la nouvelle pièce de 10 euros en argent de votre région, rendez-vous dès maintenant dans les bureaux de poste participants.
J'avais l'habitude de nager à la piscine, mais depuis que j'ai gagné à Euromillions, j'en ai mis une dans mon jardin. Puis bon, bah, j'ai un peu agrandi. Bah oui, maintenant je nage 3000 mètres chaque matin, toujours en une seule longueur. C'est comme ça, j'ai jamais su faire demi-tour.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Exceptionnel, ce vendredi, super jackpot de 100 millions d'euros. Oui, je répète, 100 millions d'euros à partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter et le théâtre Héberto présentent actuellement Le Père, une comédie de Florian Zeller avec Robert Hirsch, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo, mise en scène par Ladislas Chola.
Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges autour de nous. Tu n'as pas remarqué ? Il y avait cet homme qui prétendait que je n'étais pas ici chez moi. Un homme avec une tête vraiment antipathique. Un peu comme ton mari, en pire.
Retrouvez Le Père dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Dans le dossier de l'Erika, les partis civils saluent dans leur ensemble cet après-midi une victoire totale. Elles ont d'ailleurs laissé éclater leur joie lors de la confirmation par la Cour de cassation de la responsabilité de Total dans le naufrage du paquebot en 99. La Cour de cassation donc considère que Total a commis une faute de témérité dans cette affaire et devrait réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses co-prévenus. Le désastre syrien est une menace pour la paix mondiale, selon Ban Ki-moon qui vient de s'exprimer devant les membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Le conflit en Syrie est une menace donc croissante et grave pour la paix et la sécurité internationale. La situation Sahel, selon le secrétaire général des Nations unies, elle est inquiétante et elle réclame aujourd'hui un effort nécessaire et coordonné de la communauté internationale. La pauvreté, la fragilité, la sécheresse et les tensions communautaires sont là aussi des menaces pour la stabilité de toute la région. En revanche, Ban Ki-moon rejette les menaces d'opérations militaires lancées par des États à l'encontre d'autres États. Le secrétaire général de l'ONU fait la référence aux récentes déclarations de responsables israéliens et américains au sujet de l'Iran. Dans son discours, Barack Obama, le président américain, devrait dire tout à l'heure que les États-Unis feront tout ce qu'ils doivent pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Le Parlement espagnol a pris cet après-midi des allures de forteresse à Madrid. À 19h30 débutera une grande manifestation contre la politique d'austérité menée par le gouvernement. 1300 policiers ont été déployés. Les manifestants du rassemblement appelé Occupy Congress réclament de nouvelles élections. Ils s'estiment trompés par le gouvernement pour lequel ils ont voté en novembre dernier. Réunion décisive aujourd'hui chez Brittany Ferry. Syndicats direction sont depuis ce matin assis autour de la même table à Roscoff dans le Finistère. Ils vont tenter de mettre fin au conflit social qui immobilise les 8 navires de la compagnie en proie à des difficultés financières. Les négociations portent sur l'emploi, les salaires et le temps de travail. Parce que début juin, Brittany Ferry a annoncé la suppression de plusieurs traversées avant et après saison ainsi qu'un plan de retour à la compétitivité prévoyant notamment la réduction des coûts salariaux. Il n'y a pas de modification dans le projet de fusion entre EADS et BAE Systems. C'est EADS qui apporte cet après-midi la précision. Justement, le ratio ne changera pas. Il ne donnera pas plus d'avantages aux actionnaires d'EADS, comme certains l'avaient avancé ces derniers jours. La fusion, si elle est donc entérinée, donnera naissance à une entité détenue à 60% par EADS et à 40% aux Britanniques BAE Systems. Le tribunal correctionnel d'Amiens a relaxé aujourd'hui un agriculteur de 61 ans de Pontoile dans la Somme. Il était poursuivi parce que l'une de ses vaches avait provoqué une collision avec une voiture en 2010. La conductrice a été tuée sur le coup et poursuivie pour homicide involontaire. L'éleveur a été juste condamné à 150 euros d'amende pour divagation de l'animal. Les Français, les Italiens, les Britanniques ont passé plus de temps devant leur télévision entre janvier et août. C'est pas bien, selon l'étude de médiamétrie Eurodata TV Worldwide, publié aujourd'hui. En France, la durée moyenne passée devant le petit écran est de 3h50 par jour, plus 8 minutes sur un an. Mais qu'on se rassure, Frédéric Lodéon, les Américains restent les plus gros consommateurs de télé avec 4h50 en moyenne par jour. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ?
Ouf !
Écoutez la radio.
Ben, c'est pas mal, oui.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit...
On n'a qu'une vie. T'as fait ton choix.
Robert Charlebois.
T'as eu envie de la vivre avec moi.
Céline Olivier.
Il y a eu tant de fois que seule Jane, tu vois. Je t'écoutais en boucle du bout du doigt. Je te lisais sur papier glacé.
Salomé Leclerc.
On garde l'équilibre en se balançant. Si
pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Quand j'entends ça...
Mais c'est pas vrai, ils vont continuer encore longtemps?
Comment?
Oui, non?
On peut dire des choses pareilles.
C'est pas vrai.
Oui, madame.
Oui.
C'est...
Non.
France
Inter.
C'est différent maintenant.
La voix est libre.
Et comment qu'on va continuer? C'est
oui,
à vous, Frédéric Lodéon.
Nous avons une voix avec un X aujourd'hui absolument extraordinaire. Merci, Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Avant de recevoir notre prestigieuse invitée, je vous signale que l'Orchestre de Chambre de Versailles fête ses 60 ans. Donc ce soir, mardi, ils seront, ces musiciens et ces musiciennes aussi, au Théâtre Montansier de Versailles à 20h avec leurs amis. Allez-y si vous êtes passionné de musique en général et puis proche de cet orchestre ou non, parce qu'ils jouent pour tout le monde, bien sûr. Alors voilà le grand moment. Cecilia Bartoli est avec nous. Bonjour Cecilia.
Bonjour.
Alors c'est formidable parce que vous avez une carrière très riche, vous sortez d'une télévision, vous allez partout forcément parce que vous avez un nouveau disque, un nouvel album même, parce que c'est pas seulement un disque, c'est un projet en quelque sorte, avec un livre très fouillé, de nombreuses études, des choses très précises, il y a de l'histoire là-dedans. Ça s'appelle Mission, Cecilia Bartoli bien sûr, et ça nous parle d'un monsieur qu'on connaît un petit peu mais pas tant que ça, il s'appelle Agostino Stefani. Il était né en 1654 et c'est une nouvelle passionnée, une nouvelle passion à vous que vous avez révélée au monde. Alors c'est qui ce bonhomme-là?
Voilà. Eh bien ce bonhomme-là, c'est un grand compositeur. Un grand compositeur qui a écrit de la musique. Finalement, quand j'ai reçu la musique de Stefani, je pensais que la bibliothèque s'était trompée, finalement, entre Londres et Vienne. Parce que je lui disais, mais ça sent comme Händel, un jeune Händel, enfin de la musique, que peut-être je ne connais pas d'Händel. Mais finalement, non, c'est du Stefani. Et là, c'est vraiment ce compositeur. Je pense que c'est le lien entre la Renaissance et le baroque, entre Monteverdi et Vivaldi. Voilà, c'est... mais en compositeur, prêtre, diplomate, espion, c'était vraiment, c'est une histoire passionnante. Mais la musique est extraordinaire.
Plein de dons, il était linguiste aussi. Donc il a été un grand propagateur de la foi catholique. Il est allé même en pays luthérien, jusqu'en Allemagne pour faire ça.
Justement, il était en Allemagne. Alors il a passé une bonne partie de sa vie dans l'Allemagne protestante, lui comme prêtre catholique. C'est quand même une histoire passionnante.
Et cependant que Jean-Sébastien Bach était profondément protestant, lui, alors à la même époque, il était là, puisque notre Agostino Stefani est mort en 1728, donc Bach était bien en pleine forme, il était bien vivant. On va l'écouter tout de suite, un extrait de Tassilone, et c'est Rotrude qui chante « Je ne vous cache plus mes sentiments, que le monde entier vous connaisse ».
Più non nascondo, più temevi, sapevo,